Salut!
Vous écoutez Qui veut épouser le fisc, une série de podcasts réalisée par Perrine Bontemps et Camille Montagnon.
On est toutes les deux étudiantes en master de journalisme à Sciences Po Rennes. Et pendant plusieurs mois, on s'est intéressées aux histoires d'amour et d'argent. Alors le fric dans le couple, tabou ou pas tabou? Et qui gère les comptes? Le mariage, c'est oui ou bien c'est non?
Qui veut épouser le fisc, c'est 6 épisodes sur l'organisation financière des amoureux, mais aussi des réflexions sur les inégalités de genre entretenues, voire aggravées par notre système d'impôts.
Fiscalisation des pensions alimentaires, caution conjugale, solidarité fiscale, bref, on va vous parler cash. Bonne écoute!
Article 1691 bis du Code général des impôts.
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement. 1. De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune. 2. De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.
En France, les époux et partenaires de PACS sont solidaires fiscalement. C'est-à-dire que le fisc peut demander aux épouses de rembourser les dettes de leur mari, et même celles de leur ex-compagnon, si elles ont été contractées pendant l'union. Ce principe, c'est celui de la solidarité fiscale, qui peut être à l'origine des situations extrêmes. Marie-Cécile en a fait les frais. Aujourd'hui, elle doit 2 millions au fisc. Voici son histoire.
Moi, je me suis mariée, on a eu 4 enfants. Mon mari a créé un cabinet d'expertise comptable. Ça marchait excessivement bien, très très bien même, il gagnait excessivement bien sa vie. Moi, il m'en donnait... Alors moi, je travaillais au sein du cabinet. Il a eu des contrôles fiscaux qui se sont passés, dont moi, j'étais pas vraiment au courant puisqu'il s'était fait domicilier chez son avocat. Et quand j'ai interrogé l'avocat, d'ailleurs, en lui disant « Mais pourquoi vous ne m'avez pas tenu au courant ?» Ah ben, il me dit « Déontologiquement, je ne peux pas vous tenir au courant. » Francis, il s'appelle mon client. Je lui dis « Attendez, vous plaisantez. Déontologiquement, vous ne pouvez pas me tenir au courant, mais déontologiquement, on peut me poursuivre. Donc, je suis poursuivie alors que vous saviez que depuis des années, il fraudait. » Ben, si vous voyez, il y a une violence derrière tout ça. Vous voyez, j'en ai des frissons, rien de vous dire. On est quoi, nous, femmes? On peut nous manipuler, à notre insu, faire de la fraude, et personne vous dit ce qu'il en est? Ben non, c'est pas possible, si vous voulez. On est au 21e siècle. Vous voyez bien que l'égalité, alors moi, de ma génération, moi, j'ai des filles qui ont votre âge, vous voyez bien que l'égalité, c'est quelque chose d'excessivement difficile, parce que ça touche plus les femmes, parce que par définition, on a des enfants, on travaille moins différemment, on gagne moins d'argent, etc., etc. Bon, bref, il a eu des contrôles fiscaux jusqu'en avril 2018, où il a eu un contrôle fiscal, enfin, où il a été mis en garde à vue.
Et à ce moment-là, vous étiez séparés ou pas encore?
Non, moi, j'étais pas au courant. Moi, il me parlait de fraude à la TVA. Je vous dis pas que ce soit rien, mais bon, il me parlait de fraude à la TVA. Et quand, en avril 2018, il a été mis en garde à vue, je lui dis, Francis, là, il y a autre chose, parce qu'on fait pas de la garde à vue pour une fraude à la TVA. Ah non, je t'assure, il y a rien. Avril 2018. Bon, or, il était en garde à vue, c'était quand même mon mari à l'époque. Bon. Et en décembre 2018, en décembre de la même année, il a été mis en détention provisoire. Donc c'est excessivement violent. Moi, mes enfants sont grands, encore une fois, ils ont à peu près votre âge, ils ont de 23 à 28 ans. Mais malgré tout, mon mari en prison. Je veux dire, là, je suis tombée de ma chaise. Et du coup, je suis allée de façon très pratique récupérer sa voiture qu'il avait laissée au commissariat. Et j'ai fait spontanément ce que toute femme aurait fait, j'ai fouillé dans sa voiture. J'ai fouillé dans sa voiture, j'ai ouvert sa sacoche. Il y avait son iPad sur lequel il recevait les messages téléphoniques. Et là, j'ai découvert qu'il y avait énormément de sorties d'argent pour deux femmes en question. Et je croyais le connaître. Alors, la fraude à la TVA, je ne vous dis pas que ce ne soit pas grave, mais c'est encore une autre dimension quand vous faites de la fraude pour entretenir des maîtresses. Enfin, ça s'ajoute, si vous voulez. Mais je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Il avait un chauffeur qui avait un salaire de ministre, à laquelle il accordait des prêts, mais sans remboursement possible. Et voilà. Et l'autre, il l'avait embauché avec une promesse, enfin, il l'embauchait avec une promesse d'embauche, donc il lui donnait tous les mois des sommes d'argent pareilles, colossales. Bon. Enfin, voilà. Ça n'a pas été retenu, mais moi, j'ai vu les messages, ça n'a pas été retenu au niveau pénal, mais c'était des relations tarifées, bon, il les payait. Bon, ce qui est très grave, si vous voulez, c'est que j'ai été trompée. Donc, en soi, on se marie, on n'est pas là pour être trompée. J'ai été volée sur cet argent qu'il gagnait, qui aurait dû bénéficier au foyer, parce que quand on travaille mari et femme, ça bénéficie au foyer. Donc, j'ai été trompée, volée. Bon, donc voilà, dans un premier temps. Donc, son cabinet, à la suite de sa mise en détention, a été mis en liquidation judiciaire en mars 2019. Moi, je travaille au cabinet, j'ai été licenciée. Contrairement aux autres employés, ils ont fait un contrôle fiscal sur lequel ils contestent mon contrat de travail en emploi fictif. L'administration fiscale toujours, merci à eux. J'ai gagné au prud'homme, les AGS m'ont fait appel. Donc, je suis sans revenu et sans prise en charge de Pôle emploi. Bon, ce qui est complètement délirant, si vous voulez. Et donc, son cabinet a été mis en liquidation. Et là, l'administration fiscale me poursuit au même titre que lui pour la dette globale qu'il doit, qui est à ce jour de plus de 2 millions d'euros, parce que compte tenu des intérêts, ça joue tous les jours qui passent, vous perdez un peu plus. Donc moi, je fais des procédures, je tente une désolidarisation que j'ai beaucoup de mal à obtenir, mais que je veux obtenir parce que je suis victime d'une injustice totale d'être poursuivie pour des sommes versées à des maîtresses. À la suite de ça, j'ai divorcé octobre 2019, bon, relativement rapidement, malgré tout obtenu, et la demande de désolidarisation m'a été refusée sous le prétexte de ma mauvaise foi. Donc là, pareil, si vous voulez, c'est comme quand les femmes se font taper, il n'y a pas assez de preuves. Je suis de mauvaise foi. Non, je leur ai répondu, je suis d'absolue bonne foi, je ne veux pas payer une dette qui n'est pas la mienne. Donc, si vous voulez, on ne peut pas imaginer plus violent. Dans le collectif là, des femmes victimes de la solidarité fiscale, on parle de violence. C'est de la violence à l'égard des femmes. Ça s'appelle ni plus ni moins comme ça. Vous ne pouvez pas être poursuivi pour des faits que vous ignorez, vous n'avez pas cautionné et dont vous n'avez pas profité. C'est pas possible. La loi est comme ça, mais la loi, c'est comment il s'appelle, André Comte-Sponville, qui dit quand une loi est injuste, il est juste de la combattre. Or là, ça nous touche toutes. Moi, je vous parle de ce témoignage-là, mais nous sommes toutes touchées pour des causes différentes, mais le résultat elle-même, il y a eu de la fraude. Ça nous met en transe. On pense au suicide par moment, parce qu'effectivement, ce que nous avons apporté est beaucoup trop lourd. Vous imaginez, je dois 2 millions d'impôts, mais non. Non, moi je ne peux pas être poursuivie pour des dettes que je n'ai pas générées, à tel point que le 7 janvier de cette année, j'ai été convoquée au tribunal en tant que partie civile, parce que pour lui, il y a un dossier pénal. Forcément, il y a un dossier fiscal et un dossier pénal, parce qu'il récidive, il fait de la fraude en permanence. Il n'a pas compris qu'il fallait payer ses impôts. Et donc, j'ai été convoquée comme partie civile, mon avocat était sur le même banc que l'avocat de l'administration fiscale. Donc, je suis victime, poursuivie, condamnée. Ça fait beaucoup pour la même personne.
Marie-Cécile a 59 ans. Elle est mère de 4 enfants. Depuis qu'elle a perdu son emploi, elle loue des chambres à des étudiants à Annecy. En avril dernier, Francis, son ex-mari, a écopé de 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt immédiat. Bien qu'hors norme, le cauchemar qu'elle vit depuis 4 ans n'est pas un cas isolé.
Comme elle, des dizaines de femmes voient le fisc ponctionner régulièrement leurs comptes en banque ou saisir, puis vendre leurs biens immobiliers, en toute légalité. Marie-Cécile se bat actuellement pour conserver sa maison de famille qu'elle vient d'hériter de ses parents.
Elle est épaulée dans ses démarches par le collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale créé en 2021. Il compte 30 membres actives, toutes des femmes, elles aussi solidaires et réunies par un slogan « Bercy m'a tué », écrit « et eux ».
Elle demande à être déchargée de l'impôt qui pèse sur elle et les témoignages qu'elle publie sur leur site sont tous plus ahurissants les uns que les autres. On a donc décidé de dédier le dernier épisode de « Qui veut épouser le fisc ?» à ce principe de solidarité fiscale. Annabelle Mauve-Bonnefou habite Lyon et elle préside le collectif.
Alors le principe, en fait, il vient d'abord, il est lié à ce qu'on appelle la solidarité fiscale au sein du couple, au sein du foyer. Et c'est un principe qui était de très longue date, mais qui est surtout daté par rapport à une ère qui est un peu révolue, dans laquelle, en fait, on avait un homme qui travaillait, une femme qui était au foyer, qui ne travaillait pas, et qui finalement ne divorçait pas vraiment. Pour d'ailleurs le fait qu'elle n'était pas en capacité d'autonomie financière, qu'il y avait aussi tout le regard, la pression sociale par rapport à ça. Donc, ce principe-là de solidarité a toujours existé au niveau français, mais il n'était pas vraiment actif, puisque les femmes, si je vous rappelle quand même qu'il y a peu de temps encore, on n'avait même pas de carte de crédit, on n'avait pas le droit d'avoir de carte de crédit, on n'avait pas le droit de vote, etc. Donc, c'était pas quelque chose sur lequel, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de bruit par rapport à ça.
Ce bruit, dont parle Annabelle Mauve-Bonnefou, retentit au moment où les femmes commencent à gagner leur vie, et donc à gagner en indépendance. Au cours des dernières décennies, les hommes avaient le monopole de la demande de divorce, puisque les femmes dépendaient économiquement d'eux. Aujourd'hui, elles sont à l'origine des 3/4 des divorces contentieux.
L'administration fiscale peut donc demander à l'un des époux ou partenaires de PACS, femme ou homme, de payer l'intégralité des sommes dues par l'autre.
Et la femme étant par nature maman, plus prudente, elle est plutôt salariée. Les femmes entrepreneurs, hélas, il y en a encore peu, on aimerait bien qu'il y en ait beaucoup plus. Mais elles ont plutôt des situations sécurisées, sécuritaires en fait. Donc elles ont un salaire qui tombe, elles ont des comptes en banque, et elles sont beaucoup plus facilement attrapables, entre guillemets, repérables, que les hommes qui, souvent, s'ils ont fait des escroqueries ou des fraudes dans leur vie professionnelle, se sont bien arrangés pour que tout cela soit flou, compliqué, alambiqué pour l'administration fiscale. Et donc, par ricochet, les femmes se retrouvent à payer ces dettes-là.
Et ce, même après une rupture de PACS ou un divorce, si les dettes en question remontent à la période où les partenaires étaient encore ensemble.
En cas d'activité professionnelle illicite ou frauduleuse, les dettes issues de l'entreprise peuvent être reportées sur les gérants. C'est par exemple le cas pour Francis, l'ex-mari de Marie-Cécile.
Là où c'est problématique, c'est que les dettes étant réintégrées sur l'impôt sur le revenu, elles entrent dans la feuille d'imposition. Or, la déclaration d'impôt sur le revenu est commune lorsque les couples sont mariés ou paxés, comme nous avons pu le voir dans les premiers épisodes de Qui veut épouser le fisc. C'est comme ça que des femmes peuvent se retrouver solidaires de dettes de société. Que ces dettes soient d'origine frauduleuse ou non, le fisc s'en fiche.
Au niveau du droit, le fameux article 1691 bis du Code général des impôts explique que
« Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. »
80% sont en fait des demandeuses. Si leur décharge est acceptée, leur impôt est recalculé pour tenir compte de ses revenus propres et de sa part de revenus communs. À plusieurs reprises, des députés ont alerté sur la prise en compte de la situation financière et patrimoniale de la demandeuse dans la décision d'attribuer ou non une décharge de solidarité. Concrètement, ça fait que seules les femmes sans patrimoine et de conditions modestes peuvent en bénéficier. Les femmes qui sont en mesure de payer la dette sur une durée de 3 ans restent solidaires et doivent régler la dette laissée par leur ex-conjoint. Seule la résidence familiale échappe aux mains de l'administration fiscale.
Clairement, les seuls moments où vous avez une décharge de solidarité, il ne faut pas de patrimoine. Votre patrimoine, il y passe. Vous avez hérité d'un studio, je ne sais où, c'est mort. Régime matrimonial ou pas, propre ou pas, on s'en fout.
La juriste Lise Chatin ne se cache pas d'y aller cash.
Donc il ne faut pas de patrimoine. Déjà, le patrimoine, il y passe. Deux, il ne faut pas de revenus. Il ne faut pas de revenus. C'est-à-dire que vous devez, je ne sais pas, 200 000 euros, votre appart de 100 000, il y passe, il reste 100 000 de dette fiscale. Si vous pouvez la payer en 10 ans, pendant 10 ans, on vous prélève. Alors maintenant, c'est passé à 3 ans. Mais, Donc en gros, il faut vraiment gagner peu. Il ne faut pas avoir de biens et gagner peu.
Annabelle Mauve-Bonnefou en sait quelque chose. En plus d'être la présidente du collectif des femmes victimes de la solidarité fiscale, elle est mère de 2 enfants et docteur en gestion dans une grande école de commerce française.
Ça a été de dire, mais en fait, si vous êtes pendant 2 ans, vous quittez votre emploi, vous êtes au RSA, vous ne gagnez plus rien, vous êtes à la rue. Alors vous redéposez une demande de décharge et là elle sera acceptée. Et donc c'est une discussion que moi j'ai eue personnellement avec l'administration fiscale et où je leur ai dit, j'ai 40 ans, j'ai un bac plus 8, je me suis battue toute ma vie pour avoir une carrière de haut niveau et j'en suis fière. J'élève mes enfants dans la méritocratie, dans le fait de travailler, dans le fait de s'assumer, d'être autonome. Et là, vous êtes en train de me dire qu'il faut que je brise ma carrière, puisque je ne pourrai plus revenir à ces niveaux-là si je passe 2 ans au RSA. Personne ne voudra de moi, qu'on soit clair. Tout ça pour avoir accès à une décharge.
Dans plus des 2/3 des cas, les demandes de désolidarisation fiscale sont refusées. Alors même que depuis 2008, les ex-partenaires ont le droit de répartir leur dette fiscale selon l'origine de l'imposition. On parle alors de dette conjointe. Alors le terme est trompeur, mais en gros, chacun paie sa part. Non seulement Marie-Cécile n'était pas au courant des agissements de son ex-mari, mais surtout, elle n'a jamais bénéficié de l'argent détourné. Alors pourquoi cette solidarité subsiste-t-elle ? Le directeur des finances publiques de Bretagne, Hugues Biécharton, nous a répondu. Comme il a refusé d'être enregistré, on a fait lire ses propos.
C'est normal, le foyer fiscal est reconnu par l'administration fiscale comme créancier. À partir du moment où les conjoints ont accepté de vivre sous le même toit, il est logique que la dette s'appréhende au niveau du foyer fiscal. Il n'y a pas de considération de genre de notre part. On regarde le déclarant 1, le déclarant 2, et c'est tout. Imaginez que ce principe de solidarité fiscale n'existe pas. Ce serait une prime aux fraudeurs. Il suffirait d'une mise en situation d'insolvabilité pour que les dettes fiscales tombent. Ça, on le voit tous les jours. Donc on va plutôt regarder comment étaler la dette de la conjointe en accordant des délais de paiement.
Alors, l'administration fiscale, dans sa doctrine, nous dit que c'est parce que on conjugalise l'impôt. Mais non, ça pourrait être tout à fait conjoint.
Lise Chatin, fiscaliste et maîtresse de conférences à l'Université de Montpellier.
Autre justification qui est apportée, c'est les charges communes du ménage. Là, la Cour de Casse l'a dit 10 fois. Non, l'impôt n'est pas une charge commune du ménage. Et donc, en fait, la seule justification, c'est la garantie du trésor. Et est-ce que l'intérêt public, ici, doit encore l'emporter? C'est juste la seule question que je pose. Si l'État me répond oui, ben bingo, l'État me répond oui. L'intérêt public est supérieur à l'intérêt de la femme divorcée. Ok, mais ça s'assume.
L'une des membres du collectif des femmes victimes de la solidarité fiscale est hospitalisée après avoir cessé de s'alimenter.
Marie-Cécile est en proie à des terreurs nocturnes et à une phobie administrative depuis 3 ans.
Comme Annabelle Mauve-Bonnefou, elle a envisagé de mettre fin à ses jours avant de décider de se battre pour changer la loi.
Et éviter que l'article 1691 bis du Code général des impôts ne fasse davantage de victimes. Vous venez d'écouter le dernier épisode de Qui veut épouser le fisc, une idée originale de Perrine Bontemps et Camille Montagnon.
La pochette a été imaginée par Marion Lechêne et c'est Liam Lenormand qui a créé la musique. Les interviews ont été menées à deux, Camille s'est chargée de l'écriture
et Perrine du montage. Merci à Nicolas Dumont et à Melrine Adzeni qui ont prêté leur voix à cet épisode. Vous avez pu y reconnaître Borders de MIA et Sans lendemain de La Riviera.
Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de la série sur l'audioblog d'Arte Radio et sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcasts. N'hésitez pas à la partager autour de vous.
Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de nous confier leurs témoignages et expertise.
Et merci à vous pour votre écoute.